Bienvenue à tous. Pour notre plaisir, Rémi Fassard est notre ingénieur du son ce soir. Il y avait un certain temps que ça n'était pas arrivé. Dans une émission que réalise avec son talent bien connu, réputé même dans notre maison, Françoise Cordet, et où sera soumis à la question un certain
Georges Pasinski.
Bienvenue à tous. Je m'apprête à confronter Georges à des enregistrements de Bill Evans en trio. Avec cette nuance, qu'en toute perversité, je ne lui révèle qu'à présent, pour pimenter un peu l'affaire, des enregistrements en trio, cela ne signifie pas nécessairement des enregistrements de l'un ou l'autre des trios que le pianiste a dirigé pendant un quart de siècle. Pour ce qui est des disques entre 1956... Teddy Kotick, Paul Motion, et 1980, Mark Johnson, Joe LaBarbera. Ce préambule, je crois, exige une petite explication. Alors, d'une part, j'ai jugé déloyal et, entre nous, sans le moindre bénéfice pour cette émission, de lui jeter au visage des devinettes dont l'unique intérêt eût été de le mettre dans l'embarras. Des séances, des concerts avec ou bien des sections rythmiques rencontrées une seule fois au cours de sa carrière ou bien des partenaires dont il était friand mais qui dans telle ou telle pièce se contentent d'assurer le service minimum et de ce fait ne sont pas identifiables. Des documents de cet ordre, il en existe assez pour prendre en défaut n'importe quel expert autoproclamé, ce que mon vieux complice n'est pas. Et ça, c'est moi qui l'affirme en son nom. Il fallait éviter aussi les plages où opèrent des assesseurs méritants, mais que leur mère elle-même éprouverait peut-être quelques difficultés à reconnaître. Je pense en particulier au batteur Arnold Wise, pourtant irréprochable dans son genre. Et bien sûr, l'expérience n'eût été qu'une formalité fastidieuse si j'avais proposé à sa sagacité des choses dont je sais qu'il les connaît, lui, comme sa poche, puisqu'il les a analysées en long, en large et par le travers dans le deuxième tome de son histoire de la batterie de jazz, des choses dont nous avons déjà parlé ensemble à ce micro je ne sais combien de fois, et ça n'est pas fini. Le jeu de ballet de Larry Bunker, par exemple. D'autre part, comme je réfléchissais à la façon, non pas de le coincer, d'obtenir de lui des réactions instructives pour nous tous, je veux dire vous et moi, l'idée m'est venue, j'espère qu'il ne la jugera pas déplacée, compte tenu du contrat qui était le nôtre, l'idée m'est venue, disais-je, d'aller chercher dans des endroits plus ou moins inattendus où il se trouve, des choruses gravées par Bill avec un batteur et un contrebassiste lors de rencontres sur scène ou en studio avec des hommes qui, eux, ont signé l'enregistrement. Disons, pour fixer les idées, qu'en choisissant les illustrations sonores de cette séquence, il m'est arrivé de découper dans un ensemble plus vaste des improvisations de l'artiste sur des thèmes qu'il n'expose pas puisqu'il n'intervient que dans le cours du développement. En d'autres termes, quand j'aurais pu retenir Autumn Leaves, une œuvre du fond Riverside avec Motion et Scott LaFaro, eh bien j'ai préféré m'arrêter à quelque chose du genre du solo de piano qui sublime et transfigure le fameux Concerto for Billy the Kid de George Russell, où ce sont Motion et le contrebassiste Milt Hinton qui donnent la réplique à notre héros. Cette procédure aura au moins l'avantage de faire entendre ce dernier en compagnie de rythmiciens, des batteurs notamment, avec lesquels il ne fut associé qu'à l'occasion. Tous les amateurs, moi le premier, n'ont pas toujours présent à l'esprit, même s'ils sont attentifs à l'histoire du jazz, le fait que Bill Evans s'est produit un jour ou l'autre en présence d'une console d'enregistrement avec des tambourinaires tels que Sol Gubin, Joe Harris, Ossie Johnson, Danny Richmond, Art Taylor, Louis Hayes, Joe Jones, je dis bien Joe Jones, Kenny Dennis, Dave Bailey, Charlie Persip, Max Roach, Ed Chauncey, Clifford Jarvis, Pete LaRocca, Walter Perkins, Grady Tate, Alan Dawson, Alex Thrill ou Bill Goodwin, sans parler bien sûr de ceux que je garde dans ma manche pas si bête. J'espère enfin que ce petit jeu remplira une fonction accessoire, celle d'établir justement, si elle existe, comme j'ai personnellement tendance à le croire, une différence subtile mais capitale entre l'esthétique d'un trio de Billy Vance, et de Billy Vance s'exprimant avec le soutien d'un tandem rythmique. On va constater que l'on a affaire à deux approches qui ne s'opposent en rien, sans se superposer pour autant. Avec les rythmiques de rencontre, sous la responsabilité d'autres leaders que lui-même, Bill aura fait valoir, sinon miroiter pour notre éblouissement, certaines facettes de sa personnalité délibérément laissées dans l'ombre par sa quête personnelle, fondée sur des sacrifices, sur des amputations, autant que sur des essors et des approfondissements. Dans les années 50 et 60, c'est souvent dans le rôle de sideman qu'il se révèle le plus imprévisible. Voilà, l'épreuve va commencer, et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, j'ai prévu en guise d'hameçon une œuvre qui n'est certainement pas de nature à plonger George dans la perplexité. Ceci étant dit, si jamais il rate son coup, il ne va plus savoir où se mettre. Mon cher Georges, si nous étions tout seuls et que oui. Je tenais à entrer dans vos bonnes grâces, oui. Ce qui m'arrive souvent, je vous flatterais en disant que vous êtes un type formidable, parce que vous avez découvert qui jouait de la batterie notamment, qui joue aussi de la contrebasse, à la première corde tirée et au premier coup de cymbale donné. Et puis, si vous n'étiez pas là, oui. Et que je n'avais affaire qu'à nos auditeurs, oui. Je dirais que vous n'avez absolument aucun mérite, puisque vous assistiez à ce concert. Oui. Vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, vous l'avez dit, je ne sais avoué je ne sais combien de fois.
Oui, parce que si, écoutez Alain, là, d'abord, vous êtes d'une totale perversité, je dois le dire, mais extraordinairement gentleman d'avoir commencé par ce morceau-là. Ah si, je vous en remercie. je ne peux que vous en remercier. Parce que c'est un disque qui a marqué, c'est un concert, pas un disque, c'est un concert qui a marqué ma vie. Parce que nous, comme je l'ai dit, rapidement, j'avais représenté la France avec le quartet de Michel Theriault. À l'époque, il y avait Alex Reilly, il y avait John Surman, il y avait Yann Garbarek. C'était un concours. Le deuxième festival de Montreux était un concours. Et nous représentions la France. Et donc là, à la fin, il y avait ce concert qui était là. Moi, j'étais au quatrième rang, les applaudissements. Vous n'avez pas entendu, Alain ? Je suis au quatrième rang dans les applaudissements à la fin. Je hurle. Je trouve ça magnifique. J'étais subjugué. Non, c'est même pas subjugué. C'est un moment unique qui a été quand Desgenettes était quasiment inconnu. Enfin, il était chez Charles Lloyd.
Il y avait eu Charles Lloyd.
Mais on attendait quand même l'arrivée de Bill avec ses nouveaux venus. Et là, Eddie Gomez et lui font des choses absolument extraordinaires. Le tempo court un peu et je me souviens que c'était assez, comme on dirait aujourd'hui, assez tendu. On lance la musique, on est à la fois libre et rigoureux. Et en même temps, il y a une perspective, c'est Desgenettes, comme vous le savez, nous en avons longuement parlé, c'est la synthèse d'Elvin Jones et de Tony Williams. Et Eddie Gomez, c'est la suite de la Faro. Donc là, il y a une sorte d'explosion. Je crois qu'on n'a pas fait mieux encore jusqu'à présent. Vous êtes dans le tandem. Et Bill est un peu speedé, comme on dirait. Il était là, il était aux aguets, parce qu'il avait des gens autour de lui qui étaient quand même des géants, qui lui permettaient de faire des choses absolument superbes.
Vous savez ce qui m'étonne dans le jeu de Jack DeJohnette, celui que l'on peut apprécier à travers cette plage, c'est que on dit souvent qu'un grand batteur est quelqu'un qui est capable d'anticiper, et l'on voit très bien ce que ça peut signifier dans une interprétation. Il y a aussi des batteurs qui sont capables de répondre magnifiquement à ce qui se passe, et lui, il n'anticipe ni ne répond. On a l'impression qu'il est dans la tête de Bill Evans, c'est-à-dire qu'au même moment, ça c'est pas un groupe qui avait répété pendant deux ans, c'est pas un groupe qui étaient sur les routes depuis 6 mois. C'est des gens qui se rencontraient comme ça. En plus, Bill Evans sortait d'une époque assez longue pendant laquelle il avait décidé de s'exprimer essentiellement aux côtés de Philly Joe Jones, c'est-à-dire d'un batteur qui représentait quand même, d'une certaine façon, je ne dirais pas le passé,
non, mais la grande tradition,
la veille. C'était le jazz de la veille.
De la veille, oui, d'ailleurs, c'est extrêmement curieux, d'ailleurs, ce choix. Alain, franchement, Bill, et il y a un des enregistrements, Bill Evans, Eddie Gomez et Philly Joe Jones.
Oui, absolument.
Oui, et c'est très étrange parce qu'il adorait Philly Joe. Et en même temps, c'est drôle parce que c'est un concept qui est quand même un concept du passé, qui est magnifique, mais qui est du passé.
Il y a une chose qui est étrange quand même, c'est que sur certains morceaux et au ballet, Philly Joe Jones, vous pourriez croire que c'est Larry Bunker, c'est très étonnant. Je pense pas qu'il s'amusait, Philly Joe n'était pas le type à s'amuser à écouter les disques des autres,
il n'en avait pas
le temps. Non. Donc simplement, l'art de Bill Evans lui soufflait des formules qui n'étaient pas celles auxquelles il était habitué et auxquelles il nous avait habitués, puisque c'est un des inventeurs en matière de ballet. Hein, on en revient toujours au fameux Billy Boy avec Red Garland.
Les Brush Artistry, sa méthode de ballet.
Oui, c'est ça, sa méthode de ballet. Les 40 façons de jouer.
Mais alors, entre Philly Joe Jones et ce qu'on vient d'entendre, et pourtant, Desgenettes est certainement un admirateur de Philly Joe Jones, mais la manière dont il conçoit la musique, Desgenettes, nous le avons dit, c'est un très grand pianiste en même temps. Vous savez qu'il avait fait les tournées plus tard avec Freddie Watts à la batterie et Eddie Gomez à la contrebasse et lui au piano, Jack DeJohnette au piano. C'est incroyable. Et donc il entend, c'est ça qui est extraordinaire, il entend. Mais alors d'une manière tellement aiguë, et il a surtout un son superbe, une cymbale, une cohésion musicale superbe, vraiment une. Et en même temps, c'est incroyable, parce qu'il y a un paradoxe dans son jeu. Il est d'une stabilité intérieure assez incroyable et d'une liberté dans les figures absolument époustouflante. Donc il a un tempo intérieur absolument incroyable. Et surtout un son, quoi, qui est immédiatement reconnaissable.
Je crois que j'ai trouvé la solution à mon propre problème.
Mon Dieu.
Quelqu'un qui n'anticipe pas et qui ne répond pas, oui. c'est quelqu'un qui pratique le contrepoint spontané.
Spontané immédiatement,
c'est
absolument.
C'est un contrepoint, en fait.
Absolument.
C'est une batterie qui est de l'ordre du contrepoint.
Absolument.
Ce qui suppose que le batteur est un compositeur dans sa tête.
Mais un improvisateur est un compositeur sur l'instant.
Enfin, il devrait l'être.
Pas il doit,
vous
il
savez comme être. Moi que assez peu le sont.
Oui, mais
parce que c'est quand même une exigence extraordinaire.
Mais oui, mais ça n'a plus d'intérêt si ce n'est pas comme ça, vous comprenez. À ce moment-là, ça devient quand même quelque chose d'assez extérieur. C'est quand même une extraordinaire confrontation avec soi-même que d'improviser. C'est extraordinaire. En même temps, on est là avec les musiciens, on est devant les gens. Et on est devant une situation inconnue, en même temps connue et inconnue.
Mais ce
à
qui
la
est
fois.
Formidable, c'est qu'en plus, attendez, lui, en tant que batteur, il improvise la musique de quelqu'un d'autre.
De quelqu'un
et pourtant,
d'autre.
Il l'improvise vraiment.
Ouais, mais moi, j'étais saisi. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvaient. Ah, oh, ils m'ont dit, ah, oh, ouais, ça presse, ça ne swing pas. Je dis, mais c'est pas possible. Entendre un jeu pareil, que ça accélère. Bon, évidemment, ça accélère, mais quel
non,
intérêt.
Non, mais ça presse et ça ralentit. Mais c'est,
oui,
c'est,
mais
le,
c'est ça n'a aucune importance.
Pas... Parce que justement, mais... enfin, c'est la vieille histoire des deux chariots posés l'un
voilà,
sur l'autre.
Voilà, de Bobby Jaspard.
Ce qu'avait très bien expliqué Bobby Jaspard, quand
bien
même
sûr.
10 ans plus tôt.
Bien entendu, hein, mais bon. Il y a quand même une chose, il faut quand même bien dire. Le concert avait commencé avec One for Ellen, et avec une introduction de Bill. Et puis Eddie Gomez qui rentre un peu après, déjeunait quasiment, enfin survolant complètement. Là, dès les premières mesures, on est complètement perdu, mais d'une manière, on est attiré et perdu. Ça, c'est incroyable. Moi, j'étais happé par ce concert. J'étais à 3 mètres de Bill. J'étais à 4 mètres de déjeunette. Je le vois comme si c'était hier. Je me dis, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'il jouait, je me dis, mais c'est pas possible. Et je faisais, j'étais sur la chaise.
Vous feriez un
mais
bon Abbé Pierre,
bons,
ou, hein.
Mais Alain, je faisais des bons. Vous pouvez pas imaginer. J'étais, mais vert, au sens propre du terme, j'étais là, je me cramponnais à ma chaise, je me dis, il fait ça, après il refait ça. Mon intelligence ne marchait plus. J'étais là, pris de l'intérieur. Vous voyez, j'étais happé. J'étais totalement hypnotisé. Complètement. En tout cas, je vous remercie, Alain. Merci beaucoup d'avoir choisi ce morceau.
Bon, alors,
donc maintenant, j'ai le droit de ne pas répondre sur les quatre.
J'espère que cette fois, vous allez être complètement à côté de vous.
Oh, ben,
mais franchement,
mais
je ne
sûr.
Le crois pas. Bon, Georges, vous n'avez pas honte, franchement, la première syncope de Caisse Claire, vous avez trouvé de qui il s'agissait.
Oui.
Mais à vrai dire, vous ne l'auriez pas identifié, franchement, je me serais posé des questions. Précisément à cause
terrible.
De cette syncope,
non, mais,
c'est-à-dire ce
alors,
brrr,
oui, non, mais,
qu'il
alors,
est le seul à produire.
C'est terrifiant, ma position est vraiment, elle est terrifiante. J'avais le trac avant de venir, parce que je n'ai pas le droit... de ne pas entendre et de parler. Non, mais c'est terrifiant. Quand vous passe des choses que vous ne connaissez pas, bon, vous ne connaissez pas. Mais là, je n'ai pas le droit de me tromper. Je me décontractais dans la rue, montant l'ascenseur, pendant l'ascenseur. C'est-à-dire, En pas plus, avoir d'idées
préconçues. On n'est pas dans notre studio habituel. C'est oui, terrible pour mais, vous. Mais, je vous ai vu blêmir.
Oui, mais j'étais pas bien. Voilà, je me suis dit, il faut pas me dire, ah, il va me passer ça, il va passer ça, mais il va me dire ça. Non, écoutez ce qui va se passer. Ça, c'est difficile, c'est un exercice formidable. Pas avoir d'idées préconçues, c'est d'ailleurs comme dans la musique. Ne pas se faire des schémas préétablis, être prêt à entendre. Et là, effectivement, la cymbale, j'ai entendu le chabala très superbe, tempo magnifique, et dès le petit coup de caisse claire, reconnaissable à main gauche, parfait, c'est évidemment une caisse claire bien tendue, typique, intervention typique, un petit buzzle, un petit... pas un buzzle formidable, caisse claire de Roy Haynes, bien entendu. Et tout de suite après, je me suis dit, bon, ça doit être Chambers qui doit être avec lui, et évidemment, ça doit être le disque d'Oliver Nelson, avec Eric Dolphy, Freddie Hubbard, n'est-ce pas ? C'est voilà. Ça, je ne me suis pas trompé.
Ouais,
formidable,
exactement.
Formidable.
The
alors, blues je suis ravi.
And the abstract truth.
Alors, formidable. Alors, le phrasé de Bill, là, il faut parler de Bill Evans sur le toucher. Il a un toucher magnifique, il a une articulation dans les articulations.
Mais il savait être très percussif quand il voulait. Hein.
Mais oui, justement.
C'est alors, pas pour rien qu'il était très copain avec Eddie Costa à la fin des années 50.
Mais alors, voyez, alors peut-être un petit mot là-dessus. On a quand même l'image de Bill Evans, d'un homme un peu maladif, voûté sur le piano, d'un type un peu comme ça.
Oui, l'impressionnisme introspectif.
Voilà. C'est un homme, il faut quand même peut-être le dire pour nos auditeurs, c'est un homme qui mesurait 1m90, un grand costaud, nageur, il adorait nager.
Oui, c'est un sportif universitaire.
Voilà, le golf, passionné de golf. Non, mais il faut quand même en parler, vous comprenez. Parce que Bill Evans, golf, vous comprenez. Football américain, le croiriez-vous ? C'est extraordinaire. Et en même temps, une recherche permanente. Les silences, la luminosité des accords, le toucher, le poids dans le toucher, il est formidable. Il a un toucher incroyable. Il est très, très... Parce qu'il a étudié la musique classique. Il a travaillé de très près pendant des heures. Il a fait des répertoires. Il avait une formation classique où il jouait Bach, Brahms, Chopin, Beethoven, Debussy, Rachmaninoff, Ravel, tout ça, il connaissait bien.
Et il le fera même dans un disque connu. Hein,
voilà,
des années 60.
Voilà, il a une envergure intérieure formidable. Et là, on l'entend avec une rythmique extrêmement sobre. C'est-à-dire l'opposé de ce que nous venons d'entendre avec Dejonette et Eddie Gomez.
Mais elle est sobre d'une certaine manière, celle-là aussi, parce qu'elle ne sort pas du discours du soliste.
Je me suis mal exprimé.
C'est une certaine sobriété aussi.
C'est tout à fait vrai. Le mot n'est pas bon, sobriété. C'est parce qu'on peut être... on peut être à côté, on peut être sobre et être à côté. Et tandis que là, il y a une sobriété magnifique. Et chez Dejonette, pareil.
Disons qu'il y a eu, dans le morceau qu'on vient d'entendre, qui s'appelle au fait... Cascade, je le prononce à la française. C'est un morceau d'Oliver Nelson. Qu'il y a dans ce solo de piano une décantation délibérée.
Oui, il y a une manière de phraser qui est superbe. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant et qui incite la rythmique, le batteur et le contrebassiste à jouer vraiment le tempo. Quand on joue comme ça, on n'a pas envie d'en rajouter. On est au contraire, vous voyez, on joue vraiment exactement ce que fait Roy Haynes, c'est-à-dire vraiment que le tempo à la ride, à la main droite et des petites touches. Là, paf. Là, on en fait, paf, on en fait une autre, paf, on en replace encore une autre, mais très, très peu. Et évidemment, une audition totale de ce qui se passe, une attention et une rigueur, bien évidemment. Je suis ravi d'avoir entendu ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette rythmique-là. Avec Bill, c'est formidable, vraiment formidable.
J'espère que vous ne serez pas effondré à l'audition du suivant.
Oh là là! Ah, c'est dur, Alain. Là, vraiment, là, je porte les sacs de charbon. Là. Vraiment, c'est difficile. Hein.
Quelques remarques.
Main gauche de Bill est extrêmement intéressante. Ça fait partie, Elsa, ce répertoire du trio avec la Faro et Motian. Ça, c'est ça. Mais c'est pas ça du tout. Et en fait, la main gauche, c'est pas ça du tout. La ligne de basse est très, très jolie. Une belle chose. Pas toujours avec Bill, d'ailleurs. Très curieusement, pas toujours ensemble, mais en même temps, très joliment placé. Le batteur, vraiment très, très difficile à identifier.
Oui, là, sur une figure là, comme
vraiment,
ça.
Même le contrebassiste, je devrais. Pourtant, j'avais pensé à Chuck Israel, c'est pas lui.
Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si
ils n'ont pas
enregistré, à ma connaissance, en d'autres circonstances avec Bill Evans, ces deux musiciens, le contrebassiste et le batteur, ont en revanche joué ensemble quasiment tous les jours, années durant. Ah c'est une rythmique constituée.
C'est une rythmique constituée. Et Bill l'a prise.
Mais il ne l'a pas prise parce que ce n'était pas lui le patron. Le patron, vous ne l'avez pas entendu. L'homme qui a signé ce disque est un saxophoniste alto.
Un saxophoniste alto.
Et nous étions en 1961. Donc il jouait. C'est une des premières fois, je pense, que Bill interprétait Elsa, morceau de son vieux copain Earl Zindars, copain d'université, je crois.
En 61.
Et un morceau qu'il aura l'occasion de jouer à de nombreuses reprises jusqu'en 64-65 et sans doute même après.
Oh là là, là vraiment, je perds complètement les pédales.
Alors, vous mets sur la voie, peut-être.
Ah ouais, là, c'est
encore
terrible.
Faut-il avoir connu le disque. Le saxophoniste alto en question, c'est Cannonball Adderley.
Cannonball Adderley, mais c'est pourtant pas le disque avec Sam Jones.
Ah, c'était pas Sam Jones dans ce disque-là.
Ah, oui.
C'était, et si vous aviez ce contrebassiste, vous sauriez immédiatement qui était le batteur.
Oh là là, c'est
non, mais je vous accorde tout à fait que c'était extrêmement difficile à trouver.
J'en connais un disque de Cannonball avec Bill.
De toute façon, au ballet, ce personnage n'aurait fait, c'était sa spécialité, que des figures extraordinairement simples, voire simplifiées. Mais je pense que s'il n'avait pas joué à trois temps, on les aurait reconnus beaucoup plus facilement. C'est quelqu'un que vous adorez, je vous le dis tout de suite.
Mais alors c'est Koniké, alors
Oui, absolument.
Non, c'est formidable. c'est formidable, mais oui.
C'est Koniké, donc Persis.
Mais c'est formidable. Mais ça me donne c'est formidable. Mais jamais, alors là, jamais j'aurais pensé une seconde à eux. Vous voyez jamais, vraiment. L'association Bill Evans et la rythmique du Modern Jazz Quartet, alors là, vraiment, je ne me souviens plus du tout de ce disque. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est
qu'en fait... qui s'appelle Now What I Mean.
Ah, voilà. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, quand même, quand on entend ça, parce que là, il y a toute l'atmosphère, et vous dites, c'est en quelle année ?
61.
Scott LaFaro et Paul Motian avaient ça. Bill jouait déjà ça pleinement avec ce trio-là. Et il le jouait d'une manière, dans ses séances superbes de Village Vanguard...
C'est un morceau magnifique, une mélodie merveilleuse.
Qui le suivra, pendant
des années.
Pendant des années, un peu. Et là, la connivence entre le batteur et le contrebassiste était très très bonne, et la connivence entre le contrebassiste et le pianiste n'était pas toujours extraordinaire. En revanche, le choix des notes était magnifique, mais il y avait quelque chose qui me gênait. C'est pour ça que j'avais tort de penser à Chuck Israel.
Alors, je vais vous proposer maintenant, pour vous reposer cette épreuve terrible, un morceau qui lui a été enregistré sous le nom de Bill Evans, dans un disque du commerce, avec un trio qui a fonctionné un certain nombre d'années que même certainement vous avez eu l'occasion d'applaudir en direct. Thank you. Compte, Georges, que je vous ai offert un solo de batterie.
Oui,
là
j'étais content.
Alors, nous avions passé quand même plusieurs années, puisqu'on était en 1977. Le disque le plus récent que nous ayons écouté jusque-là étant le Walking Up du passage du trio de Bill Evans à Montreux en 1968. Donc, une dizaine d'années avaient passé.
Oui, ça.
Alors, je veux dire, vous avez tout de suite identifié, là encore, et le bassiste et le batteur.
Merci, Alain. C'était un cadeau, parce que vous m'avez fait un cadeau quand même. J'ai pensé que vous étiez pervers au début de l'émission, et au fur et à mesure que nous avançons, je trouve que vous avez quand même. Vous m'avez pas complètement mis la tête
sous
l'eau. Oui,
mais l'émission n'est pas finie.
Ah, d'accord. Bon, alors, je réserve donc mon jugement. Alors, écoutez, simplement un mot. Ce qui est intéressant dans cet enregistrement, c'est en fait, Eddie Gomez est maintenant donc installé déjà au sein du Bill Evans Trio. Il a joué, Eddie Gomez a d'abord peut-être le fait qu'il est amplifié. Aussi, on n'en a pas parlé par rapport à Scott LaFaro, le fait qu'il joue amplifié. Peut-être que c'est dû aussi à des batteurs comme Marty Morell qui a commencé à monter un peu le volume sonore. Et c'est vrai, Elliott Zygmunt l'a baissé un peu le volume.
Et ce c'est de lui qu'il s'agit, précisons-le quand
voilà,
même.
Voilà, bien entendu, donc c'est Elliott Zygmunt et Eddie Gomez, bien sûr. Alors, en fait, là, le solo que nous entendons est d'une façon très classique. Il est extrêmement fin. C'est un batteur très talentueux, Elliott Zygmunt, très fin, très talentueux, mais en même temps, il n'a pas évidemment le génie de Jack DeJohnette. Il n'a pas l'envergure de Jack DeJohnette, mais en même temps, il est extrêmement intéressant. Il y a plein de petites phrases, de petites choses, une sorte de très grande réserve et en même temps très présent. Non, ce qui est intéressant, c'est évidemment la stature d'Eddie Gomez. Il fallait quand même penser que, si mes souvenirs sont bons, Eddie Gomez est resté 11 ans, je crois, avec Bill Evans, il me semble. Hein. Ça doit être un nombre d'années absolument incalculable. Et il a joué, Eddie Gomez, il a joué avec qui ? Il a joué donc avec Shelly Manne, avec un disque magnifique d'ailleurs, en trio avec Shelly Manne. Il a joué donc avec DeJohnette, avec Philly Joe Jones, avec Marty Morell. Il a joué avec Tony Huxley, un artiste justement, et avec Elliott Zygmunt. Et Avec qui n'a-t-il pas joué? Et j'en peux pour preuve, il y a quand même une chose qui est intéressante à ce sujet. Il m'a paru assez intéressante, c'est le thème Nardis. J'avais repensé, quand vous m'avez proposé cette émission, j'ai regardé, il a commencé à jouer Nardis à la fin des années 50, Bill. Et en fait, il l'a joué toute sa vie, jusqu'au dernier enregistrement, où il le joue pendant 15 minutes à la fin de sa vie au Keystone Corner, le 8. Si mes souvenirs sont bons, c'est le 8 septembre 80, donc une semaine avant sa mort. Et que se passe-t-il? Il y a Eddie Gomez, j'avais recensé dans Nardis des choses où il joue avec Philly Joe Jones, donc Bill, dans la tonalité de Nardis, qui est mi mineur, une tonalité que Bill adorait. Il adorait cette tonalité, la majeure aussi, mais surtout mi mineur. Et puis il l'a fait. Alors, Nardis avec Scott Lafaro, Paul Mussian, Chuck Israel, Larry Bunker, Eddie Gomez, Arnold Wells, Eddie Gomez, Joe Hunt, un merveilleux batteur dans ces sessions qui sont un groupe de 8 CD, un coffret de 8 CD au Village Vanguard, qui sont superbes.
Non, mais c'est Joe quelqu'un Hunt. Qui avait joué avec Stan Getz, avec
mais
George
oui,
Russell. Enfin,
magnifique.
Bon, ce n'étaient pas les plus mauvais
mais
qu'il
loin de là.
À leur côté.
Et encore Eddie Gomez avec Philly Joe Jones, Eddie Gomez, Marty Morell, et puis bon, et puis après, ça a été la dernière ethnique, Mark Johnson, Joey La Barbera. Bon, mais tout ça pour dire qu'en fait, il a une expérience colossale, Eddie Gomez. Il est installé ici d'une manière impériale, et je sais qu'on lui a reproché à des moments de penser même que ça pouvait être le trio d'Eddie Gomez au lieu du trio de Bill Evans.
Ça a été dit, oui.
Ça a été dit, ça.
Mais parfois, franchement, on avait un peu
vous
cette
avez,
impression
vous
dans,
avez...
les, dans les concerts.
Ah oui. Moi, j'ai jamais eu cette sensation, peut-être parce que j'ai trop le souvenir du disque que vous avez passé au début à Montreux où je la trouvais tellement extraordinaire et que c'est, par la suite après je l'ai vu à,
oui, moi je le préfère dans ce disque là que dans beaucoup d'autres
dans
qu'on
beaucoup,
a connus
oui.
par la suite hein.
Oui il a une présence incroyable, il a une précision qui est extraordinaire, une justesse incroyable, je crois qu'il a absolument tout quoi, il a tout, je l'ai vu après beaucoup plus tard au New Morning. Là, il y a quelques années, seul, c'était vraiment un monsieur qui est respecté. Il y avait un parterre de contrebassistes, d'ailleurs, qui était là. Il était venu, voilà une image que j'ai gardée, vous voyez, du temps où Alain Guérini tenait le CIM. Il est venu faire travailler les étudiants, et il y avait plein de contrebassistes. Il leur a demandé de jouer. Alors, tout le monde, les petits oiseaux, petits, on a tout, à fond la caisse, vous voyez, tout. Et tout le monde est passé en essayant de faire du Eddie Gomez. Lui, il a pris la contrebasse qui était la contrebasse de l'école, et il a commencé à jouer le blues, très tempo médium, uniquement des noirs, tranquilles, bien au fond du temps. La contrebasse, inutile de vous dire, on ne la reconnaissait pas. Et tous les gens blêmissaient, complètement atterrés devant la puissance et la sobriété du jeu. Ça, c'est incroyable.
Alors, je peux vous promettre une chose, ça n'est pas Eddie Gomez que nous allons entendre dans l'extrait, je dis bien l'extrait de pièce qui va être diffusée maintenant.
Je crains le pire. Thank you.
Alors je précise, parce que nous avons hélas omis de le faire, ça n'est pas très professionnel,
oui,
que le morceau précédent était le Dolphin Dance de Herbie Hancock.
Bien sûr.
Et là nous avions affaire à un vieux standard de Richard Rodgers et, pour les paroles, Lawrence Hart, qu'affectionnait Bill, My Heart Stood Still. Mais il n'avait pas été enregistré sous le nom de Bill, ou plus exactement, pas seulement sous le nom de Bill.
Oui.
Alors, je dois dire que là encore, vous avez reconnu le batteur tout de suite.
Presque.
Et puis le contrebassiste. Ah, si, si, tout de suite.
Oui,
et le contrebassiste au deuxième essai. Vous m'en avez d'abord proposé un, je ne sais plus lequel.
Oui, j'avais pensé à Art Davis.
Voilà, Art Davis. Et vous m'avez proposé finalement Ron Carter. Ouais. Et c'était bel et bien Ron Carter, qui toute sa carrière n'a pas joué aussi bien qu'il joue là.
Hein. Oui,
c'est
oui,
assez remarquable. Et quant au batteur, alors dites-le tout de suite.
Elvin Jones.
Oui,
alors, j'ai attendu quand même quelques coups de cymbale avant d'entendre. Parce que je ne m'attendais pas, évidemment, à Elvin Jones. Je pensais que vous passeriez quand même ce disque, mais je ne l'ai pas entendu depuis longtemps. Alors, c'est très curieux, l'association d'Elvin, parce que c'est dans le disque avec Stan Getz.
Voilà,
le saxophoniste Stan Getz, n'est-ce pas ?
Le premier, hein, parce qu'il y en a deux. Hein.
Deux,
celui-là,
voilà,
c'est celui de 1964.
Bien. Alors, Elvin et Ron Carter, avec Bill Evans, ça c'est quand même incroyable. D'abord, on va procéder par ordre, on va regarder le jeu de Bill, quasiment méconnaissable quand on l'entend. Et là, il faut savoir que, peut-être remonter un peu dans le temps, savoir qu'on peut évaluer, estime un musicien au potentiel d'inventivité qu'il peut avoir. C'est-à-dire, quelles sont ses possibilités ? Et Miles avait bien vu, quand il a demandé à Bill de rentrer dans son orchestre pour remplacer Red Garland, ce qui n'était pas une mince affaire. En plus, c'est un blanc qui remplace un noir, ce qui n'était pas une mince affaire, mais quelqu'un qui allait plutôt du côté...
Ça a provoqué d'ailleurs des réactions, qui n'étaient pas toujours des plus agréables, il faut bien le dire.
Bien entendu.
En tout cas pour Bill Evans.
En tant que, justement, alors là, quand il est rentré, Miles était intéressé parce qu'il avait un côté modal, tout ce qui allait un petit peu en dehors des harmonies du travail traditionnel du bebop. Et en fait, c'était un chercheur. Et alors, il cherchait. Et d'ailleurs, je dois vous dire que j'avais caché sous le manteau un livre que vous ne connaissez peut-être pas, Alain, qui est de vous, bien entendu, qui est le livre de Bill Evans sur lequel vous avez écrit un nombre de pages formidables.
Ce livre.
Mais pas du tout. Alors, je vous cite à l'intérieur, parce que vous avez à la page 282, s'il vous plaît, de ce Bill Evans signé Alain Gerbert, préface de Pierre Bouteiller, vous citez la pensée de Bill. « Je ne crois pas avoir autant de talent que d'autres. Quelqu'un qui a du talent possède une certaine facilité et joue bien dès l'âge de 16 ou 17 ans, beaucoup mieux que moi au même âge. J'ai dû bûcher tant et plus et passer beaucoup de temps à chercher, à plonger et à extraire avant d'arriver à quelque chose. Et à cause de cela, j'ai bénéficié par la suite d'un surcroît de clairvoyance dans mes entreprises. » Je continue la citation. « Je n'étais pas un imitateur. » Alors voilà, quand on entend ça, je n'étais pas un imitateur, je n'étais pas... Et écoutez cette phrase, Alain, vous en souvenez bien entendu, je n'étais pas assez talentueux pour ça. Je me suis retrouvé avec un style qui était une synthèse du jeu de très nombreux musiciens. De là, une chose est sortie et je pense qu'elle m'est personnelle. C'est ce qu'on m'affirme. Pour ma part, je ne serai trop qu'en pensée. Mon succès me surprend. J'ai travaillé dur. Alors voilà, ça c'est, vous voyez. J'ai travaillé dur pour l'obtenir, j'avais placé en lui toutes mes espérances, mais je vois autour de moi tant de grands artistes dont la valeur n'est pas reconnue. Alors voyez, ça éclaire beaucoup Bill. Autrement dit, il a énormément tout le temps cherché, tout le temps été aux aguets et tout le temps dans des choses qui font, et là c'est intéressant, qui font chanter quand même la rythmique là. Parce que quand même, il faut bien dire, le trio mythique, on n'en a pas parlé, c'est quand même Scott LaFaro, Motion, Motian et Bill, c'est un miracle dans l'histoire de la musique, ce trio-là. On n'a pas fait mieux. Vous rendez compte, 5-7 un dimanche. 5-7 qui sont au village Vanguard, qui sont restés à la postérité, en une journée, gravés des chefs-d'œuvre, 13 morceaux enregistrés. C'est superbe. Et après, tout le reste était un peu des dérivés de ça. Mais jamais il n'est arrivé à ce niveau-là. Mais là, il est totalement ailleurs. Il fait respirer une rythmique classique. Et lui, il cherche. C'est ça qui est incroyable. Alors, maintenant, ça, c'est sur Bill. Elvin avec Bill. Très curieux mélange, vous imaginez Bill ? Non, avec Elvin. Elvin, il fait équipe avec qui ? Il fait équipe avec Steve Davis d'abord chez Coltrane, puis Art Davis, Reggie Workman, Jimmy Garrison. Et Coltrane cherche quelqu'un pour que ça colle.
Et Richard Davis dans les studios, hein, il a beaucoup enregistré avec ce musicien.
Ah ouais, mais il cherche quelqu'un. Coltrane cherche un contrebassiste qui marche avec Elvin. Pourtant, avec Bill, vous imaginez, avec un pianiste, avec Bill qui est la perle et tout, Elvin qui arrive là, j'abats les coups, incroyable. Et ça fonctionne. Et justement, là, il est magnifique. Moi, vous savez, Elvin, qui ne peut ne pas admirer Elvin? C'est superbe. Là, il n'est pas comme dans Impression avec Coltrane. Il joue la symphonie. Mais oui, il sait jouer comme ça. Oui, il sait, par exemple, dans le trio avec Likonitz et Dallas. Il joue là, il y a Motion, le disque s'appelle, c'est magnifique, il n'y a que la ride. Mais alors, encore faut-il connaître la grille, parce qu'il ne fait rien, et c'est extraordinaire.
À ceux qui douteraient de ce que vous dites, je recommande le disque en trio, Earlines, Richard Davis, Elvin Jones. Parce que il joue au ballet,
hein,
et uniquement avec la caisse claire et la charleston.
Mais oui, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, voilà un musicien qui sait merveilleusement s'adapter. Parlons de Ron Carter. Non. Curieux. Ron Carter, Bill, c'est incroyable. Ron Carter qui, dans la tête, a Tony Williams et Mice, qui après fera des chemins très, très curieux. Enfin, ce ne sera pas... Et là, il joue magnifiquement bien avec Elvin. Normalement, Elvin et Ron Carter, ça ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne. Vous voyez, c'était très curieux. C'est étrange comme conjugaison. Et ça m'a toujours surpris. Comment des gens qui ont fait des chemins musicaux très éloignés les uns des autres, Elvin avec Coltrane, Ron Carter avec Mice, eh bien finalement, à l'occasion d'une séance, sont ensemble.
Bon, vous avez dit des choses superbes. Alors,
Alain.
Pour vous récompenser, je vais vous passer ce que je trouve, moi, l'épreuve la plus difficile.
Oh non! Vous m'en avez réservé une quand même.
J'interromps, Georges, puisque ça fait une bonne minute que vous avez déjà trouvé. À ma grande stupéfaction, je dois dire, parce qu'en écoutant ça, moi, je pensais qu'on ne pouvait absolument pas découvrir qui était ce batteur. À part Shabada, ne fait pas grand-chose,
le son, c'est le secret, c'est le son, Alain.
Voilà, mais il faut être musicien pour découvrir des choses comme ça.
C'est une intuition, le son, la manière de jouer. Et cette manière, c'est la même qu'il a lorsqu'il joue dans le trio de Jarrett. C'est incroyable, il joue comme ça dans le trio de Jarrett. C'est Paul Motion.
Mais sauf qu'avec avec Bill Evans, d'habitude, il ne tient pas comme ça espèce de Shabada obstiné.
Mais il ne joue pas comme ça avec Bill, normalement. Jamais il ne joue comme ça. Mais ce son de batterie, je l'ai tout de suite reconnu.
En effet.
Ah, mais tout de suite.
Voilà, alors, c'était donc Paul Motion avec à ses côtés Henry Grimes, qui allait bientôt être engagé par Sonny Rollins, s'il vous plaît.
Oui.
Et cet extrait d'un disque du clarinettiste Tony Scott.
J'aurais dû m'en douter.
Tony Scott, Bill Evans, qui interprétait un thème de Bill que l'on trouve dans le tout premier album de Bill avec Teddy Kotick et Paul Motion.
Oui.
Ce thème s'appelle Five.
Alors, peut-être. Alors là encore.
Qui est un thème très, très avant-gardiste pour l'époque.
Oui, bien entendu. Moi, j'étais obnubilé par le jeu de Motion derrière, quoi. Cette souplesse, en fait. Je vous avoue, j'ai peu écouté Bill. Mais il faut peut-être dire juste un mot, parce que nous arrivons juste en fin d'émission.
Oui, ce qui est un petit.
Alors on écoute le morceau et je dis quelques mots après.
1 minute 14 secondes
Allons-y.
De Funkalero.
Oh non! Ah non, non, oh non, c'est...
Là, je, prenez votre respiration.
Je suis quand même un peu fatigué, là, j'avoue. Hein. Là, j'avoue, là ça travaille dans la...
Tiré comme un chef, là. Oh, en plus, je vous propose un trio à quatre musiciens.
Oui,
avouez que c'est assez rare.
C'est très...
Puisqu'un guitariste s'est joint à la bande. Alors, le guitariste, on ne l'entend pas. Enfin, on a entendu quelques notes. C'est Jim Hall.
On retrouve
Ron Carter à la contrebasse. Avez-vous un nom à me proposer pour la batterie? À mon avis, ça n'était des slabs que dans les toutes dernières.
Oui, bon, il a fait quelque chose.
Maintenant,
à la fin,
si l'on sait que c'est lui, on admettra que les quelques syncopes, il n'y en avait pas beaucoup de main gauche qu'on a entendu, étaient tout à fait caractéristiques de sa manière.
Mais encore,
faut-il y penser.
Là, j'avoue que...
C'est un batteur qui a beaucoup joué avec lui.
Qui a beaucoup joué avec, avec Bill.
Oui. Et tout au long de sa carrière. Ils n'ont pas arrêté
alors
de se retrouver.
Alors c'est Philly Joe Jones.
Et voilà.
Mais formidable. J'en étais presque sûr. Hein. Mais j'ai eu du mal à l'identifier. Il y a eu le petit rimshot à la fin.
Voilà.
Alors,
hors antenne, je vous ai dit, tu vas voir à la fin.
Oui, voilà.
Parce qu'hors antenne, je vous tutoie. Hein.
Oui, bien entendu. Mais vous avez essayé de me déconcentrer. Je sais que dans la rue, quand nous donnons rendez-vous, vous avez changé de trottoir pour essayer de me décontenancer, pour essayer de dans une situation infernale. Et j'avoue, je transpire un maximum. Alors simplement, peut-être juste pour conclure notre émission, il faut peut-être dire aussi qu'il y a un aspect de la vie de Bill, c'est évidemment toute sa déchéance sur le plan moral, sa déchéance, j'entends, cette souffrance qui a été sa vie, il a été l'esclave des stupéfiants.
Une sorte de descente aux enfers.
Une défense aux enfers.
Qui était liée à tous les êtres chers qu'il avait perdus. Hein.
Voilà,
il y a eu
une vie qu'on pourrait...
Sa femme qui s'est suicidée.
Sa femme, son frère, tout ça, enfin... Et en même temps, il y a cette musique magnifique. Alors, c'est très curieux parce qu'il y a une ascension de Bill sur le plan musical. Et en même temps, on peut critiquer la fin dans les trios où il fait des introductions très longues, où il se déchaîne et le trio n'existe plus. Il est seul. Et c'est en même temps une ascension et un suicide déguisé. Il y a une solitude énorme et en même temps, les accords, les renversements, les substitutions, et on est proche de la folie. Un sentiment rythmique, une qualité rythmique exceptionnelle, une verticalité, une écoute verticale. Extraordinaire évolution des voicings, fantastique, mais rythmiquement très fort. Et un éclatement de la personnalité et une espérance. Et ce qui est terrible, c'est une angoisse de la mort, en fait. Et il se jette à corps perdu dans la vie. Et j'en pense que finalement, pour réussir la vie, je vous citerai Monterland. Écoutez ça, il n'y a qu'une préparation à la mort, elle est d'être rassasié. Rassasié d'âme, de cœur, d'esprit, de chair, à ras-bord. Et il n'y a qu'une immortalité qui vaudrait être souhaitée, c'est celle de la vie. Je crois que ça s'adapte merveilleusement à Bill Evans.
Black and Blue s'achève. Cette émission bénéficiait de la réalisation de Françoise Cordet, de la prise de son de Rémi Fessard. Elle consistait pour l'essentiel à faire tomber Georges Pakzinski dans des pièges qu'il a esquivés avec beaucoup d'élégance. Mais qui pouvait en douter entre nous? Allez, excellente fin de soirée à tous.